Bienvenue à chacun. C'est un plaisir en tout cas pour moi de pouvoir dispenser ces cours. Et je vais essayer tant soit peu en tout cas de les rendre dynamiques. Parce que le but c'est pas de donner un flot d'informations et puis voilà, s'il y aura en même temps pas de support, je peux vous bourrer le crâne et puis vous allez peut-être retenir 5% de tout ce qui aura été donné, donc ça aurait été dommage. Donc le but de la théologie, c'est pas d'en mettre plein le cerveau, c'est qu'il faut que ça descende dans le cœur et que cette théologie devienne en même temps pratique. On va dire une théologie qui s'incarne dans notre quotidien et dans nos rapports les uns avec les autres. Voilà. Mais c'est toujours centré sur Christ. Ce qu'on veut, c'est que notre Seigneur Jésus prenne encore plus de place en nous et que dans nos paroles, dans nos échanges, dans notre regard sur l'autre, dans nos attitudes, manière de penser, tout ça, ce soit vraiment Christ qui agisse. Donc, on va parler ce matin principalement du module de la Bible. Qui a déjà lu la Bible ? Qui a déjà lu la Bible en entier ? Qui a déjà lu la Bible plusieurs fois en entier ? Ah, il y a moins de mains. Il faut persévérer. Je vais donner juste quelques pistes, en tout cas plus de mon expérience personnelle pour vous dire comment j'en suis arrivé là, et de mon rapport avec la Bible, parce que c'est surtout ça. C'est en même temps, la question que j'aimerais vous poser, et vous répondez d'une manière personnelle, intérieure, c'est quel est ton rapport à l'heure d'aujourd'hui avec la Bible, avec ce livre ? Quel est ton rapport ? Est-ce que tu as du mal à l'appréhender ? Est-ce que tu as du mal à l'ouvrir ? Est-ce que ça te fait peur ? Peut-être t'es pas motivé. Ça peut se comprendre. Hein. Je dis pas qu'on essaye de trouver des excuses. C'est qu'on essaye de comprendre en fait, quel peut être le frein à justement ouvrir la parole de Dieu et en recevoir tous les bienfaits. Comme je disais souvent, moi quand je prends du temps avec la parole de Dieu, je veux dire j'en prends encore plus parce que je suis dans la traduction, mais c'est pas pareil. Là on est dans un travail où on regarde le grec, l'hébreu, on fait de la traduction, c'est bien, mais c'est pas pareil que quand on ouvre la Bible, on veut méditer, on lit, c'est autre chose. Mais pendant 5-6 ans, j'avais ma Bible et vous savez, il y a la table des matières. Et pendant un an, je lisais la Bible en entier. Et je mettais une petite croix quand j'avais lu tel livre, tout ça. Puis je mettais des codes couleurs. Donc la croix rouge, c'était l'année 2025. Et puis je reprends ma Bible 2027, on n'y est pas, mais c'était 2012, 2013, 2014. Donc pendant 5-6 ans, je sais que j'ai lu ma Bible en entier. Et c'est très important parce que ça permet en même temps de se familiariser avec le texte, de voir de quoi ça parle, pour avoir en même temps une vue générale de la Bible. Voilà, puis après, quand on veut peut-être plus méditer sur un personnage, sur Déborah, sur Samson, ou sur peut-être la passion du Notre Seigneur, ou on veut étudier un Timothée, vous voyez, vous prenez plus le temps et vous méditez. Mais moi, quand j'ouvre la parole de Dieu, alors que ce soit pour préparer un message, que ce soit pour écrire un article, ou pour simplement pour me nourrir, moi j'aime beaucoup le couscous. Mais le vrai couscous oriental qui est fait avec du beurre, ou même le beurre, il transpire à travers la semoule. Il y a des merguez, il y a tout ça. Vous voyez la photo. Souvent la photo fait encore plus saliver que quand vous goûtez. Et vous êtes là, tu te régales même à l'avance. Moi c'est pareil quand j'ouvre la Bible. On n'a pas besoin de me dire t'as faim, tu vas réussir à finir, il n'y a pas trop salé. Ah non, rien que de voir, de l'ouvrir, je me délecte. C'est mon rapport avec la Bible, voyez. Ça ne veut pas dire qu'on doit en même temps, c'est toujours un danger. Vous savez, le diable, il opère de deux manières. Soit il fait en sorte de vous dégoûter de la Bible en disant, qu'est-ce que tu arrives à comprendre ? Ézéchiel, Philistin, laisse tomber. Donc, en fait, tu vas pas tirer profit de ta lecture de la parole. Donc, en fait, tu es un peu dégoûté ou tu es découragé, donc tu l'ouvres pas. Et puis, il y a ceux qui sont, on va dire, les bibliolâtres. C'est-à-dire ceux qui, vraiment, ils ont presque, ils vouent un culte pour la Bible. Et tout passe par la Bible. Vous leur parlez, ils t'envoient des versets de la Bible. C'est des versets de la Bible. Tout ça. En fait, ils ne l'incarnent pas. Vous voyez ? Donc, on est toujours dans deux. Il faut trouver dans notre vie un juste équilibre. Équilibre qui est en même temps l'œuvre de la croix en nous. Donc, dans nos rapports avec la Bible, c'est la question que je voulais te poser, c'est quel est ton rapport à l'heure d'aujourd'hui ? Et peut-être qu'il n'est pas forcément... Peut-être tu aspires à plus. En tout cas, mon objectif, on va dire, mon défi aujourd'hui, c'est de vous stimuler, de vous donner envie peut-être d'avoir un autre rapport avec la Bible, à l'appréhender peut-être autrement et à en tirer profit, un bénéfice dans votre quotidien pour que quand vous l'ouvriez, la Bible vous parle, vous puissiez en retirer des vitamines. C'est ça, pour votre croissance, c'est le but. J'ai grandi dans les assemblées de Dieu, qui est une très bonne école. Et j'avais 18 ans. Et j'étais dans une recherche. Alors, c'était à l'époque où il y avait à Mâcon le vin nouveau et tout ça. Donc, il y avait un réveil, en tout cas, qui secouait une partie de l'église. Et donc, c'était baptême dans le Saint-Esprit, enfin, les manifestations et tout ça. Et bien que j'étais dans une église pentecôtiste, moi, j'ai grandi dans un environnement où, dit charismatique, mais dans la pratique, il y avait quoi ? Quelques parler en langue, quelques prophéties, c'était assez timide. Voyez ? Mais j'ai grandi quand même dans cet environnement-là. Et puis à 18 ans, je commençais à m'intéresser à la Bible. Et puis je commençais à avoir des responsabilités dans l'église. Et puis je commençais à travailler. Et mon travail n'était pas loin d'où était mon pasteur. Et puis le soir, il m'avait invité à manger chez lui. Et puis donc on avait fini de manger. Puis on avait prié le temps que je rentre chez moi. Et puis je m'interrogeais sur le baptême dans le Saint-Esprit. Mais je n'étais pas comme un obsédé, il faut absolument. Je dis Dieu nous respecte, Dieu connaissait mon cœur. Mais je n'étais pas, on va dire, dans une recherche active. Je m'interrogeais. Vous voyez ? Et puis, on finit de manger chez le pasteur, il était avec son épouse. Et puis, donc, lui, il prie. Et puis, je finis de prier. Et je dis voilà, Seigneur, Amen. Ça m'est tombé dessus littéralement. Dieu connaissait mon cœur et a répondu à. Ce soir-là, je suis rentré, donc je dormais au travail, et j'avais ma petite Bible Ésaïe 55. Je revois. Hein. Pour moi, c'est pour ça que ces moments, c'est des moments clés dans notre vie qui sont en lien en même temps avec nos appels respectifs. Et je rentre au travail, j'ouvre ma Bible et je lis 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. J'ai littéralement dévoré. Je m'en rappelle. Et ce soir-là, je sais que Dieu a allumé un feu pour la parole. Je l'ai dit, j'avais 18 ans, je ne savais pas que 30 ans après, vous voyez, j'en ai 48, je ne vous le cache pas, mais que 30 ans après, j'allais être là à donner des cours. Mais je ne le savais pas, il a fallu tout un cheminement dans ma marche. Je vais avoir 33 ans la première fois que je m'ai demandé d'apporter la prédication. Mais entre 33 ans et 18 ans, j'ai pas resté sans rien faire, Seigneur. Non, j'étais passionné. Donc la Bible, je l'ai lu, je lisais, j'écoutais. Il y avait moins de YouTube qu'aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait. Pour celui qui veut, il y a de la ressource. Et ça a été donc ce cheminement-là. Après, voilà, dans mon parcours, j'ai rencontré deux personnes que je considère comme des pères spirituels, parce qu'on a besoin, comme Paul dira à Timothée, soyez mes imitateurs. Il y a besoin dans l'Église, j'en parlerai un peu demain, mais il y a besoin de ça. Donc moi, j'ai eu Claude Payan, Claude et Julia Payan, qui a vraiment été un modèle de père en soi. J'ai toujours mon papa, mais mes parents sont toujours ensemble. Mais j'avais besoin d'un modèle masculin. Et dans ce qui est communiqué, dans ses rapports avec ses enfants, j'ai beaucoup appris. Et l'autre, c'est Jean-Marc Taubois, qui est décédé, où là, j'ai vraiment appris la théologie. Et on va dire, c'est ce contact avec ce ministère d'enseignant qui était Jean-Marc Taubois qui a littéralement stimulé mon appel. Et voilà, il y a des étapes dans notre marche. Et puis quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se rend compte que Dieu avait conduit toutes choses, même certains contacts, même certaines choses. Alors voilà, peut-être certains, on n'aura peut-être pas l'occasion de se revoir, mais en tout cas, ce que je veux, mon désir, c'est que il y ait quelque chose qui soit déposé en vous ce matin, une semence. Vous savez, le semeur, il sème, des fois ça tombe. C'est sûr que si vous allez jeter des, si on jette des graines ici, même si on met de l'eau, vous serez d'accord que ça ne portera pas. Donc que vraiment ce matin, vos cœurs soient cette terre qui a été travaillée et cette semence-là qui est jetée ce matin, ce que vous recevrez cet après-midi et demain matin, ça porte un fruit. Voilà. Et que vraiment stimulé par l'amour de la parole. Donc ça, c'était. Ça, c'est mon témoignage qui m'est propre. Et ça, c'est, voilà, comme je vous disais, c'est mon rapport avec la parole de Dieu. C'est, voilà. Vous avez vos Bibles avec vous ? Montrez-la-moi. Restez là debout, je veux la voir. Je suis un passionné des Bibles, hein. Je travaille en même temps dedans, donc Darby. Pas mal. Ouf. Heureusement. Je passe au crible. Mon fils a une Bible des témoins de Jéhovah. Il l'a pris dans ma voiture. C'est la Bible des témoins de Jéhovah, on la reconnaît. C'est pas une Bible à brûler, c'est pas une Bible hérétique. Je la connais, je l'ai étudiée. Il y a quelques petites entorses au texte. Hein. C'est pas retiré. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on dit, on fait une entorse à la traduction pour faire passer ce qu'on croit. Donc voilà. Mais ceci dit, parfois certaines traductions sont quand même assez intéressantes. Mais c'est parce qu'elle était dans ma voiture, donc mais pas de souci. Summer, ouais, biblio, super. Waouh, regardez.
C'est là où je travaille.
Excel 6, tout le stock est chez nous. Celle-là, Bible de bord, second matin. Voilà, c'est bon, merci. Oui, c'est. Disons, les Bibles, c'est passionnant, c'est le cœur du travail que j'ai fait sur Bibliorama. Pourquoi j'ai fait ce site Bibliorama? C'est pour répondre à une question qui souvent les gens posent, c'est quelle est la meilleure Bible? King James? On peut mettre des réserves. Donc vous voyez, chacun a sa réponse. Mais souvent, quand on est libraire ou quand on est un peu spécialisé, on nous demande, ah oui, mais alors, quelle est la meilleure Bible? Quelle est la Bible la plus fidèle? Parce qu'on a toujours le souci d'avoir la Bible, comme vous ne lisez pas le grec et l'hébreu, il faut être sûr que le traducteur, il ait fait un travail plus juste. En tout cas, qu'il essaye d'être au plus juste et en même temps le plus neutre, pour pas que dans sa traduction, il fasse penser ce que je crois. Parce que si je ne crois pas que les femmes ont le droit de prêcher, je vais traduire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, point final. Je ne permets pas de dominer sur l'homme, vous mettez un autre point, et qu'elle reste en tranquille. Vous voyez, donc vous sabrez trois fois. Puis vous avez d'autres traducteurs qui, eux, pour eux, la Bible, enfin, pour eux, la femme a une certaine liberté. Donc dans la traduction, vous sentez un peu plus de. Voilà. Donc vous voyez que dans un verset, en fonction de. Le traducteur va influencer. Et c'est toujours difficile d'être neutre, c'est toute la complexité dans le travail. Mais il n'y a pas de Bible moins bonne, ou à part un cas comme la témoin de Jéhovah. Mais en soi, l'idée, c'est de, là où vous en êtes aujourd'hui, on va essayer de trouver la traduction qui vous correspond. Vous voyez, je disais hier, par exemple, parole de vie, quelques-uns l'ont ici, la Bible Parole de vie, elle est en français fondamental. Le français fondamental, c'est quoi? C'est en fait, c'est un français qui a été utilisé pour les gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc, que ce soit un malgache, un africain, ou quelqu'un qui veut apprendre le français. Donc, il ne faut pas que vous lui parliez à nous étions, nous fûmes, vous voyez, du passé simple, du futur antérieur, ou alors ils recouvrirent le propitiatoire, la rédemption. Enfin, c'est des mots où quelqu'un qui n'est pas déjà, même nous en français, on a du mal à... Qu'est-ce que ça veut dire propitiatoire? Qu'est-ce que c'est véritablement la rédemption, l'incarnation, tu vois? Donc il faut, pour ce public-là, avoir un français très simple. Donc le français fondamental, en fait, c'est 3500 mots. 3500 mots. Donc les mots les plus que vous retrouvez les plus souvent. Et donc, cette traduction utilise le français fondamental. Donc vous imaginez l'appauvrissement terrible dans une traduction. Donc tout est au présent. Et puis vous avez des mots très simples. Donc vous avez quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec le français et il veut découvrir la Bible. Enfin, en tout cas, vous lui offrez parole de vie. C'est très bien. Maintenant, quelqu'un qui veut étudier la parole de Dieu, qui a le souci du verbe, du choix, de la tournure, tout ça, il va falloir une traduction qui soit fidèle. Voyez. Et le traducteur, je le développerai tout à l'heure, son souci, c'est à quel public je m'adresse. Mais j'imagine que vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes des gens qui en veulent, qui veulent aller plus loin, qui ne se contentent pas du minimum, mais qui veulent progresser dans leur marche. Donc ça passe inévitablement par l'étude de la parole de Dieu. Ça va de soi. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. Donc il faut un outil adapté à votre recherche. Alors je ne vais pas faire de pub pour une traduction quelle qu'elle soit. Hein, ce n'est pas le but là. Mais c'est d'avoir en tout cas une traduction qui vous correspond et que cette Bible soit véritablement votre outil de travail. Moi, j'ai la mienne qui est posée là. Vous l'ouvrez, c'est gribouillé partout, il y a machin. Voilà, c'est la mienne. Et je m'y retrouve et je suis à l'aise. C'est mon outil de travail. Et vous aussi, il faut que vous trouviez votre Bible qui est la vôtre et puis vous la personnalisez vraiment. Et vous savez que quand demain, vous trouvez tel verset, vous savez que c'est à peu près ici, en haut, à droite, tout ça. Vous voyez ? Donc, c'est important. L'outil de base de l'étudiant, du chrétien sérieux qui veut aller loin, c'est la Bible. C'est l'outil de base. Donc, investissez premièrement dans cet outil, trouvez l'outil qui vous correspond et après, vous l'affûtez. Tous les matins, vous affûtez votre lame pour être prêt quand le diable il vient dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Vous dites comme Jésus, « Il est écrit !» Donc, il faut connaître. Ça va ? Quelle heure est-il ? Bon, alors, on parle théologie aussi. Donc, j'ai mis pas mal en PowerPoint pour que vous puissiez en même temps visuel retenir, c'est plus facile. Et il y aura des feuilles qui vous seront distribuées. La théologie, alors c'est Erickson qui dit ça. Il suggère 5 ingrédients pour une définition de la théologie. C'est-à-dire, la théologie, bien évidemment, elle est biblique. Elle prend sa source dans la parole de Dieu. On n'invente rien qui soit extra-biblique. Hein. Donc la théologie biblique, utilisant les outils et les méthodes de recherche biblique, tout en employant des idées de provenance. Si vous voulez prendre des photos, il n'y a aucun souci. Voilà. On m'a posé la question, là j'ai un PowerPoint, il y a 80 diapos, tout n'est pas bon. Il faudrait qu'idéalement j'en fasse un qui soit après pour... mais j'en ferai un, je l'enverrai. Ouais. Donc la théologie est systématique, c'est-à-dire qu'elle va puiser dans toutes les ressources de l'écriture et elle va relier les différentes parties les unes des autres. C'est-à-dire quand vous allez étudier, imaginons la christologie, l'étude de Christ, on va étudier Christ dans son incarnation, c'est-à-dire à travers les évangiles, ce que Paul va dire, mais aussi dans ce qu'on appelle la préexistence de Christ, c'est-à-dire Christ existait. Alors on ne parle pas de Jésus. Jésus, c'est quand le Christ s'est incarné, il prend le nom de Jésus. Mais comprenez, faites-moi pas dire ce que je dis pas, c'est que Jésus, je ne dis pas n'existait pas, que le Christ, on parle du Christ. Le Christ, Jésus. C'est pour ça que Paul, des fois, joue sur les deux, mais il met Jésus-Christ et il met Christ-Jésus. Le Christ est de toute éternité. Vous êtes d'accord ? Christ, deuxième personne de la Trinité, est de toute éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. C'est le dogme élémentaire de la Trinité. Mais le Christ existait avant que Jésus ne vienne au monde. Vous êtes d'accord ? C'est ce qu'on vous enseigne dans cette assemblée, Johanna, préexistence du Christ. Ce que les témoins de Jéhovah ne croient pas. On peut prendre la traduction, ça sera tourné dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est des sujets. C'est tout l'intérêt d'avoir, je veux dire, un minimum, allez, un petit peu plus que le minimum en théologie. C'est que la théologie, sur certains domaines, comme la christologie, l'étude de Christ, c'est de pouvoir répondre quand demain vous serez confronté. J'aime pas le mot confronté, on ne doit pas être en confrontation avec des témoins de Jéhovah. Il faut que ça soit dans un dialogue, sinon ça doit se faire dans un respect mutuel. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec leurs idées. Encore faut-il pouvoir argumenter et pouvoir leur dire, vous voyez, dans votre traduction, c'est écrit comme ça. Pourtant, si je prends le grec, regardez comment c'est écrit. Donc, comment vous justifiez votre traduction? Vous voyez, ça, ce n'est pas destiné aux gens qui ont étudié 40 ans le grec, ce n'est pas ça. Moi, je vais essayer de vous donner de la ressource. Et si vous avez des moines de Jéhovah qui viennent souvent, il faut pouvoir leur répondre. Après, on peut voir ça en aparté plus précisément si ça vous intéresse. Mais l'étude de la christologie permet justement ça, de voir, comme on disait dans le point 2, c'est toute l'écriture relie les différentes parties les unes des autres. C'est-à-dire, c'est où, on peut poser la question, où était le Christ dans la première alliance de Genèse à Malachie? Où était le Christ? Quelqu'un a des pistes? Ça? Ah oui. Si elle parle, ouais. 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 C'est juste pour ceux qui enregistrent. Soit vous parlez fort pour que le micro y puisse. D'accord. Je vais essayer pas trop faire non plus. Mais voilà. Quelqu'un a dit l'ange de l'Éternel. Effectivement, quand on étudie en théologie, l'ange de l'Éternel, il est associé à Dieu. Donc ça, c'est toutes les études, quand vous faites de la christologie, il y a un chapitre qui est, en christologie, il y a des sous-chapitres, qui est l'ange de l'Éternel, qui est ce qu'on appelle une manifestation, une théophanie, mais une manifestation de Christ avant son incarnation. Voilà, peut-être il y en a certains qui ne sont pas du tout à l'aise avec ces mots, parce que là, on est dans un vocabulaire théologique, mais c'est bien aussi. Le but, c'est pas qu'on... Voilà, il faut enrichir son vocabulaire. Et puis, si après, vous avez des questions plus personnelles, vous me dites, tiens, si tu as dit ça, j'ai pas compris, on peut en parler après. Il n'y a pas de problème. Point 3, la théologie est pertinente pour la culture. La culture, tous nos tableaux, toutes nos églises ont puisé leurs ressources dans les textes saints, les vitraux des églises, tout ça. La culture, l'apprentissage, puisant dans la cosmologie, la psychologie, la philosophie, l'histoire et l'anthropologie. Voilà. Vous avez par exemple une maison d'édition qui s'appelle Empreinte, qui sont beaucoup des livres sur la psychologie. C'est utile. Il y a besoin de psychologues avec un regard chrétien, avec une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Mais tout ça, ça puise ses ressources dans la parole de Dieu. Point 4. La théologie doit être contemporaine, reliant les vérités de Dieu aux questions des défis d'aujourd'hui. Les questions d'éthique, par exemple. Que dit la Bible sur l'avortement? Que dit la Bible sur... Alors, c'est pas enregistré à grande écoute, donc ça reste entre nous. Mais que dit la Bible sur l'homosexualité? Que dit la Bible sur le transgenre? Que dit la Bible sur... Alors, on pourrait dire que dit la Bible sur les moyens de contraception, pas grand-chose, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas ce que nous, on a. Mais pourtant, il faut des fois avoir certaines clés, comment savoir décoder. Et j'ai appris avec l'expérience que, en fait, la Bible répond à toutes les questions. La Bible répond à toutes les questions. Oui, mais tu me diras, la Bible ne parle pas. Si, des tatouages, elle en parle. Après, tout dépend quelle interprétation on adopte, on ne va pas parler de ça, tout ça. Mais... ce qui revient souvent, en tout cas c'est pour les gens mariés, c'est dans le couple, il y a certaines choses, on ne va pas en parler de ça ici, mais certains couples disent, mais est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Alors la Bible ne va pas vous dire très clairement, ça tu fais, ça tu ne fais pas. La Bible, ce n'est pas un manuel qui vous dit, ça tu dois pas. Ça ne marche pas comme ça. Mais j'ai écrit un article qui permet de répondre à ça. Et en fait, ça remet un peu les choses à plat. Mais ça ne veut pas dire que la Bible va répondre sur est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça. Mais je le dis, je maintiens que la Bible répond à toutes les questions. Et parfois, il faut juste avoir les clés, le bon décodage, et ça passe aussi par l'enseignement. Mais vraiment, je suis convaincu que la Bible répond à toutes, même les questions d'éthique. Tout ce que le monde aujourd'hui pose, qui s'interroge, la Bible, les réponses sont dans la parole de Dieu. Et enfin, cinquième point, la théologie doit être pratique. Elle ne déclare pas seulement une doctrine objective, mais étant reliée à la vie elle-même. Quand on dit que la théologie doit être pratique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en début, c'est que le but, ce n'est pas de vous remplir le mot prédestination, incarnation, préexistence, tout ça, c'est ok, c'est bien quand vous parlez, vous avez un peu de vocabulaire, c'est super, mais la théologie doit être pratique. C'est comment faire pour que cette théologie descende dans le cœur et s'incarne dans notre quotidien. Une théologie pratique. Donc c'est ça. Ça va ? Super. Alors, là, aujourd'hui, c'est le module de la Bible, ce qu'on appelle en théologie systématique la bibliologie, c'est-à-dire l'étude de la Bible. Ce qu'on retrouve généralement, systématiquement, en théologie, quand on aborde le module de la Bible, c'est quoi ? C'est la doctrine de l'inspiration. C'est-à-dire croire que la Bible est pleinement, c'est-à-dire l'inspiration plénière, c'est-à-dire que toute l'écriture, tout ce qui est dans ce livre-là, on met à part les livres apocryphes ou deutérocanoniques, en tout cas la Bible-là, les 66 livres que catholiques et protestants reconnaissent comme pleinement inspirés, sont d'inspiration divine. C'est-à-dire que c'est vraiment Dieu qui en est l'auteur. Ce qui fait que ce livre n'est pas un livre comme les autres. Vous pouvez prendre un livre de Daniel Steele ou de, je sais pas moi, un livre, un roman, vous allez le lire une fois, allez vous aimez, vous allez le lire deux fois, allez peut-être trois fois, mais vous n'allez pas forcément en retirer, à part si peut-être vous prenez des ouvrages, des outils pour l'étude, tout ça. Mais voilà. Mais quand vous lisez la Bible, enfin, là on revient toujours à quel est votre rapport avec la Bible, c'est quand vous lisez la Bible, vous sentez que c'est d'une autre teneur, que c'est un livre qui vous parle, un livre qui vous bouscule, un livre qui va dénoncer des choses peut-être cachées dans votre vie, un livre qui va vous apporter un espoir dans une situation terrible que tu vis aujourd'hui. Ce qui fait que ce livre est un livre vivant, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Il parle en esprit. Toute écriture, c'est le verset clé qu'on prend quand on développe la doctrine de l'inspiration, 1 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, en grec théonoptos, c'est-à-dire inspirée, insufflée de Dieu, et utile pour enseigner, etc. etc. 1 Timothée 3,16, donc ça c'est le verset clé. 2 Timothée 3,16, tout à fait, c'est pour voir s'il y en a qui suivaient. Je corrigerai. 2 Timothée 3,16. Il y a aussi la doctrine de l'inhérence, qui est le fait qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Alors, il y en a toujours qui vont essayer de vous dire, oui, mais regarde, à tel endroit c'est écrit ça, et à tel endroit c'est écrit ça, dans Jérémie, et puis c'est pas... Ouais, ça, c'est... Les gens qui vont dans ce débat, perdez pas de temps. Des fois, c'est même des erreurs de traduction, tout ça. Mais dans l'absolu, quand on déclare l'inhérence, c'est nous croyons, étant donné que Dieu ne fait pas d'erreurs. Dieu fait-il des erreurs ? Il y en a trois qui ont l'air assez convaincus. Qu'est-ce qu'il y en a ? Dieu fait des erreurs ? Non, 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 Dieu ne fait pas d'erreurs. Donc, encore plus, dans ce livre qui est la Bible, il n'a pas fait d'erreur. Dieu est le grand chef d'orchestre, Dieu est souverain, Dieu maîtrise tout, Dieu sait tout. Et donc, nous pouvons donc affirmer qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Troisièmement, de son autorité, c'est-à-dire, c'est la Bible qui a autorité dans l'Église et dans nos vies. Est-ce que tu acceptes l'autorité de la parole de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu l'acceptes de te laisser reprendre? Parfois, il faut. Pour te sauver, parce que peut-être tu es embourbé dans certains péchés, ou parce que voilà, tu es sur une mauvaise voie, une voie corrompue, comme Balaam. Mais la parole de Dieu est là. Elle n'est pas là pour te condamner, la parole de Dieu. Elle est là pour te ramener sur le droit chemin. Mais il faut que tu acceptes qu'elle ait autorité sur ta vie. C'est ce qu'on appelle donc la doctrine de l'autorité. Et puis il y a de sa préservation au fil des siècles et de l'évolution de la traduction. Donc ça, on va le survoler parce que c'est, en même temps, c'est technique, c'est, faudrait 2 heures rien que pour parler de ça. Et troisièmement, c'est la formation du canon de la Bible. On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle le canon de la Bible? Le mot canon? Oui, ça vient de ça, c'est la canonicité. Ouais. Ouais, c'est pas un oui, hein, c'est un non masqué. Il y a de ça. Non, quand on parle du canon des Écritures, c'est déterminer quels livres seront dans la Bible et quels livres ne le seront pas. Donc il a fallu qu'à un moment, on décide, est-ce qu'on met Apocalypse ou pas? Pour nous, c'est évident, on est en 2025, on achète des Bibles, la table des matières, tout ça. Pour nous, c'est d'une évidence même. Mais quand on regarde l'élaboration du canon, je suis d'accord, ce n'est pas forcément les sujets les plus passionnants. Il faut être un passionné, comme moi éventuellement, mais mon but, c'est en même temps vous piquer votre curiosité. Et on pourra le voir que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a été énormément débattu. Il a fallu attendre, je crois, le 4e siècle pour que, enfin, l'Église dise « Ok, on va le mettre ». Donc pendant au moins environ 300 ans, le livre de l'Apocalypse, on ne savait pas. On le met, on ne le met pas. On le met, on ne le met pas. On le met, on ne le met pas. Et pour avoir un canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire les 27 livres, que ça, catholiques et protestants, reconnaissent la même chose à ce niveau-là sur le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il y a 27 livres, il faudra attendre 365, je crois. C'est une lettre que Athanase va écrire, où il mettra les 27 livres que l'Église reconnaît. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique n'existait pas en tant qu'Église catholique romaine. Les protestants n'existaient pas encore. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le canon. C'est la règle, en fait. C'est qu'est-ce qui détermine que ces livres-là, on reconnaît qu'ils sont d'inspiration et les autres, non. Donc il y a toute une discussion. On le verra tout à l'heure. Je vous donnerai des documents qu'on survolera, mais que vous lirez plus posément, sur en même temps la question des livres apocryphes, qui fait partie des sujets qu'on aborde, enfin, en tout cas, c'est un cours qu'on donne quand on fait de la bibliologie, c'est la question des livres apocryphes. Apocryphes et deutérocanoniques, ça veut dire la même chose. Simplement que pour les catholiques, deutérocanoniques, deutéro, ça veut dire deuxième canon, et les protestants, eux, plutôt les appellent apocryphes, c'est-à-dire cachés, secrets, un peu obscurs, on a du mal à les appréhender. Mais les catholiques reconnaissent, pareil que nous, les 66 livres comme pleinement inspirés. Simplement que qu'ils appellent, eux, les deutérocanoniques, qu'on verra tout à l'heure, quand je dis ça, je parle pour le Premier Testament, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas la même inspiration. Donc il faut quand même aussi reconnaître ça. Parce que des fois, on pose la question, les Bibles catholiques, il y a les livres apocryphes, danger, il ne faut surtout pas acheter ça, il y a les livres deutérocanoniques dedans. Il y a des gens, je dis non, est-ce que tu les as lus au moins? Bah non. Bah, alors de quoi tu parles? Oui, mais c'est catholique. Ouais, mais...
Dans la Bible catholique, dans les livres de Daniel, elle est plus complète.
Ce n'est pas qu'elle est plus complète, c'est qu'il y a des ajouts grecs. Il y a 3 livres en plus, qui sont des petits récits. Belle et le dragon, les 3 chants du serviteur, des choses comme ça. Ils sont intéressants à lire. D'ailleurs, même les réformateurs, mais ça, on le verra tout à l'heure. Je veux pas. Il est quelle heure? 10 heures. On fait une petite pause? On laisse descendre ça? À tout de suite. Sinon, de toute façon, vous allez sur Amazon. Il y en a qui connaissent Amazon ? Ok. Barre de recherche, vous tapez NTB Alexandre Nano, vous trouverez. Donc, il existe trois modèles. Celui-ci, le bleu, et puis un modèle rigide, un peu, on dirait un peu un modèle de luxe, couverture souple, couverture rigide, que vous retrouvez sur le site. J'aurais dû en avoir plus d'exemplaires, mais il y a eu des soucis de livraison. Ça fait rien. Vous ouvrez vos Bibles, psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1. C'est ce qui revient souvent, alléluia. Il y a Hallel dedans, le verbe louer. Et il y a, qui est le diminutif de Yahweh, c'est-à-dire le nom de Dieu, le tétragramme. Donc, Alléluia. Loue, c'est le pluriel. Alléluia. Donc, louer, ce qu'on traduit par louer l'Éternel. Alléluia. Ashrei Ishyare et Adonai be mitzvotav Rafetz Meod. Rafetz Meod. Dites-le. Rafetz Meod. Rafetz Meod. Encore une fois, Rafetz Meod. Rafetz Meod, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous savez ce que vous dites ? C'est le verset psaume 112, verset 1, en hébreu, Alléluia, Ashrei Ish Yare et Adonai, Bemitzvotab, Rafetz Meod. Et les deux derniers mots de votre verset, de ce que tu as lu, les deux derniers mots, c'est quoi ? Juste avant. Un grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autres traductions qui disent dans le grand plaisir, là ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans d'autres versions ? Qui prend plaisir ? Qui trouve un grand plaisir ? Oui, on retrouve la même idée. Rafetz Meod, en hébreu. En fait, c'est quelque chose qui... C'est ce qu'on pourrait traduire très... Beaucoup, énormément de plaisir et de satisfaction. C'est-à-dire, après, à partir de là, vous pouvez faire votre traduction. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il y en a qui craignent l'Éternel, là ? Enlève la main. Qui craint l'Éternel ? C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Il faut craindre l'Éternel. Dieu est un Dieu saint. Trois fois saint. Heureux l'homme. Ish, alors c'est pas l'homme masculin, c'est heureux, on va dire, l'être humain. Heureux l'homme, la femme qui craint l'Éternel. Et qui trouve une pleine, on peut aussi dire, une pleine satisfaction dans sa parole. Alors, bemitzvotav, il y a le mot mitzvah qui est le commandement, qui dit qu'il prend plaisir à accomplir les commandements de Dieu. Hein. Alors ça veut dire quoi? Tout dépend comment on comprend ça, mais dans l'absolu, on va dire, c'est qu'il prend plaisir. Parce que là, ce matin, on parle de, comme je vous disais tout à l'heure, quel est ton rapport avec la parole. C'est ça. Et je trouve que ce verset illustre bien. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve une grande satisfaction à méditer sa parole. On peut aussi le comprendre comme ça, c'est pas faux. Vous voyez ? Il faut que ce verset devienne réalité. Il faut que tu le... Pas comme une méthode, il faut que je le vive, il faut que je le vive. Non, c'est tu le déclares. Je crains l'Éternel. J'éprouve un grand plaisir quand je suis devant sa parole et que je la lis. Rafetz Meod. Rappelez-vous de ça quand vous lirez ce verset. On va poursuivre. On a fait deux diapos. Donc on a parlé de... Généralement, quand on étudie la bibliologie, les chapitres qu'on voit. Et vous savez, dans les églises que vous êtes, dans les églises respectives où vous êtes, quelle que soit la dénomination, normalement, chaque église a sa confession de foi. Normalement. Et si votre église a un site internet, vous avez généralement en haut confession de foi. Et vous cliquez, vous avez donc la confession de foi, c'est-à-dire qu'est-ce que votre Église croit. Et généralement, il y a en premier un petit développement justement sur la Bible. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu la confession de foi de l'Église où vous allez ? Levez la main bien haut. Qui a déjà lu la confession de foi de l'Église où vous êtes? Levez la main bien haut, que je joue juste pour y avoir une idée. Il n'y a pas de faute ou pas faute, c'est pas ça. Hein. C'est juste pour avoir une idée. Très bien. Je vous encourage peut-être même à aller questionner le pasteur. Vous dites, on nous a parlé de est-ce que je peux avoir accès à la confession de foi? C'est intéressant. Donc moi, j'ai été sur le site de la CBM et il y a la confession de foi. Donc j'ai ni plus ni moins repris ce que la CBM dit sur la confession de foi, sur le passage de la Bible. Donc extrait de la confession de foi, la Bible est inspirée de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Donc l'inspiration. Donc c'est déjà un bon point pour la CBM. Elle reconnaît l'inspiration plénière de la Bible. La Bible est inspirée de Dieu. Ce livre est pour nous l'autorité. On a parlé tout à l'heure de l'autorité. Deuxième bon point pour la CBM, c'est qu'elle reconnaît que la Bible est pour l'Église, en tout cas, l'autorité souveraine concernant la foi. Bien qu'elle existe depuis des milliers d'années, son message est pertinent pour notre vie aujourd'hui. On a dit la théologie doit aussi être pratique, elle doit s'incarner dans notre quotidien. Sinon, ça reste juste de l'intellectuel, c'est bien, mais ça ne produit rien. Donc vous voyez, typiquement, c'est, on va dire, l'essentiel est dit. Vous avez des confessions de foi, ils vont mettre, il y a 20 lignes, parce que certains ont besoin de développer ou d'amplifier leur chose. Donc voilà, on va dire, c'est succinct, c'est clair, mais au moins vous savez où vous êtes. Vous venez à la CBM, vous lisez, vous dites, bah, je suis en accord avec ça, il n'y a pas de souci. Alors, Johanna m'avait dit aussi, tu parleras, parlant de la Bible, de donner quelques chiffres. Donc, je vous ai fait un petit peu un récap d'infos que l'on trouve. Après, c'est comme tout, ces infos-là, elles sont là à l'heure d'aujourd'hui. Si on les avait dans 10 ans, on réactualiserait les chiffres. Mais la Bible, il est évident que c'est le best-seller depuis toujours. Aucun livre n'a dépassé la Bible. C'est le livre le plus imprimé, le livre le plus vendu, le plus distribué, le plus répandu. C'est ce qu'on appelle le best-seller, les meilleures ventes. La Bible, indétrônable. Donc c'est le livre le plus vendu au monde, dont les chiffres avoisinent les 35 millions de ventes par an. 35 millions de ventes par an. C'est très difficile d'avoir des chiffres exacts. C'est tout impossible parce qu'il y a tout. Il faudrait carrément aller directement aux imprimeurs et que avoir leurs chiffres pour savoir combien ont été imprimés. Mais entre le chiffre qui est imprimé et ceux qui sont vendus, là encore, il y a des écarts. Voyez. Donc ça donne juste une idée. Mais c'est pour dire que c'est quand même des chiffres exorbitants que peu, voire arrivent à ces chiffres-là. Donc la Bible atteint le plus grand record inégalé en nombre d'exemplaires vendus par an. Et sur la durée, elle est qualifiée de best-seller des best-sellers. Et je l'ai mis pour info, le deuxième ayant atteint, c'est le petit livre rouge de Mao Zedong, publié en 1964, qui lui avait été imprimé à 2 milliards d'exemplaires. C'est beaucoup, mais éphémère, parce que c'est 2 milliards sur une petite période de l'histoire, en fait. Tandis que la Bible, c'est depuis... On va dire, grâce à l'impression de Gutenberg en 1400, enfin au 15e siècle en tout cas, qu'on a pu là commencer à imprimer et à diffuser. Et aujourd'hui, avec l'impression numérique, boum, on n'arrête plus les machines. Voilà. Mais on va dire, la Bible, c'est depuis. C'est, en même temps, c'était très intéressant, c'est que c'était la première page de la Vulgate que Gutenberg a imprimée. C'était pas n'importe quoi, c'était une page de la Bible que Gutenberg a été imprimée. Et voilà. Donc la Bible, dans sa version des 70, il y en a qui connaissent la 70. Elle connaît pas mal de choses. Hein. Comment tu t'appelles? Aurore, elle connaît pas mal de choses. La 70, il y a un document qui va arriver dans pas longtemps, et puis après on va... Il y a beaucoup de mots techniques dans bibliologie. Beaucoup de mots techniques qu'il faut connaître. Donc dès qu'on a les feuilles... On va vous les donner et on va les lire ensemble. Et puis quand vous verrez un mot qui revient septembre, vous aurez la petite feuille, traduction des septembre. Ok, c'est ça. Et voilà, c'est pour enrichir votre vocabulaire. Donc, la traduction des Septante, en fait, on est à peu près en 300 avant Jésus-Christ. Pour vous situer sur le niveau de la chronologie, on est 300 avant Jésus-Christ. On parle du Premier Testament, l'Ancien Testament. Donc, il y a 66 livres, Malachi étant le dernier prophète. Il va y avoir, à la fin de Malachi, 400 ans. On arrive à l'an zéro, la naissance de Jésus. Mais entre le dernier prophète et Jésus, il y a 400 ans de silence, de ce qu'on appelle le silence de Dieu. C'est-à-dire, quand vous lisez Ézéchiel, à un moment, vous voyez l'esprit qui s'en va, qui va vers le mont des Oliviers et qui s'en va. En fait, la Shrina, la présence de Dieu, quitte Jérusalem. Et on veut dire, l'esprit prophétique s'en va. Donc, il n'y a plus de prophètes qui sont donnés à Israël. Donc, il va y avoir 400 ans de silence de Dieu. Donc, c'est pour ça que le canon s'arrête à Malachi, pour les protestants. Mais il va y avoir, entre moins 300, à peu près moins 400, je l'ai dit, il y a 400 ans de silence, à peu près, hein, mais c'est juste pour vous donner une fourchette. Donc, pendant ce silence, il va y avoir des livres qui vont être ce qu'on appelle les livres apocryphes. Maccabée, Tobie, Judith, toutes ces choses-là, qui vont être écrits en grec. Parce que les conquêtes d'Alexandre le Grand ont fait que Alexandre le Grand va répandre la culture helléniste grecque dans la langue. Et Alexandre, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand va mourir assez jeune, mais va avoir une conquête impressionnante au niveau de la, sur le, un court temps, mais en tout cas très important. Et son royaume va être divisé entre ses quatre généraux. Donc ils vont se partager son royaume, et le royaume d'Alexandrie, il va y avoir Ptolémée qui, la bibliothèque d'Alexandrie, va vouloir, dans sa bibliothèque de l'époque, on n'est pas dans les bibliothèques d'aujourd'hui, et maintenant aujourd'hui c'est des bibliothèques numériques, mais à l'époque, dans la bibliothèque d'Alexandrie, Ptolémée voulait un ouvrage de ce qui était les références en littérature. Donc il a souhaité qu'il y ait la Torah, enfin le Tanar. Quand on parle du Tanar, c'est l'Ancien Testament. Il voulait dans sa bibliothèque les textes saints du peuple juif. Donc ça a été traduit, il a fait venir à Alexandrie 70 ou 72 sages d'Israël, et ils ont traduit les textes hébreux en grec. C'était la première fois qu'on faisait un travail de traduction. Et c'était donc ce travail de traduction qui était donc, quand on dit la Bible, mais comprenez le Premier Testament. Donc la Bible, dans sa version des Septante, ce qu'a donné la traduction des Septante, qu'on voit souvent écrit LXX, qui est en chiffre romain 70, les Suisses diraient Septante, voilà. Donc on l'appelle la Septante, parce que c'est 72 sages d'Israël qui ont fait la traduction. La Bible, dans sa version des Septante, a été le premier ouvrage à être traduit de l'hébreu vers le grec pour la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Et c'est la première œuvre à avoir été imprimée, c'est la Bible, en 1455, par Gutenberg. C'était une édition latine de la Vulgate. Voilà. Donc la Bible, là j'ai essayé d'actualiser les chiffres, c'est le livre le plus traduit dans le monde. En 2024, elle a été traduite en plus de 4000 langues. Ce qu'il y a écrit en tout petit, c'est pour info, on compte à peu près 7400 langues dans le monde qui sont répertoriées, que ce soit dialecte, patois ou langue. 7400. Vous voyez que donc il y en a plus de 4000. Donc tous les peuples, tout le monde n'a pas forcément accès dans sa langue au texte. 777 langues ont une Bible complète traduite, ce qui est peu, en fait. 1790 ont au moins le Nouveau Testament traduit dans leur langue, et 1410 ont seulement des portions. 500 millions de Bibles ou de portions sont diffusées dans le monde, c'est énorme. C'est pas tout de la voir, il faut aussi la lire, l'ouvrir et la méditer. Donc on estime à 6 milliards le nombre d'impressions. Mais c'est, comme je dis, c'est des chiffres qui sont impossibles à vérifier, En tout cas, on sait que depuis l'invention de l'imprimerie, on n'a jamais cessé de traduire, d'imprimer, de diffuser, et cela depuis 500 ans. Il y a des gens qui vouent leur vie à ça, dont le but c'est de permettre à des langues, des dialectes, des peuples d'avoir accès au texte saint, et des gens vraiment font vœu de consacrer leur vie pour ça. C'est une tâche qui est noble, parce que c'est le message de... C'est une lettre d'amour du Père à chacune de ses créatures. Et tout le monde devrait pouvoir avoir accès à ça. Nous sommes des privilégiés en tant que Français. Et tu vois, le nombre de traductions qui existent, franchement, n'en faudrait pas se priver. Et c'est l'un des livres les plus anciens, la Bible. Si on considère que Moïse a rédigé le livre de la Genèse, alors que sa rédaction date de 3500 ans, pour info, le Coran n'a que 1400 ans. On le verra tout à l'heure au niveau des fiabilités. C'est souvent des arguments qu'on donne pour prouver la fiabilité des textes saints. Parce que c'est pas tout de dire « Oui, mais la Bible, tu sais, la Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est quelque chose de sûr. » C'est bien. Vous en êtes convaincus. Je le suis, c'est bien. Mais vous avez des gens qui, en face de vous, sont peut-être un peu plus scientifiques, ont besoin peut-être d'un peu plus de preuves pour étayer vos propos, ce qu'on appelle faire de l'apologétique. C'est-à-dire, la Bible n'a pas besoin qu'on la défende, Dieu se défend aussi bien lui-même, mais parfois, on a besoin de faire de l'apologétique, c'est-à-dire pouvoir argumenter sa défense. Je vous donnerai, peut-être c'est la diapo d'après. Bon. Voilà. Rapidement, donc le Nouveau Testament, le premier Nouveau Testament à avoir été divisé en versets, date de 1551, vous le saviez? Parce que pour nous, c'est une évidence qu'on achète une Bible, il y a des chapitres et il y a des versets. Et on pense que Paul, il a dit verset 2, ta, 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 verset 3, ta, 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 verset 4, ta, 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 ta. Non, ça ne marche pas comme ça. La division en chapitres, puis... La division en versets, c'est tardif. Regardez bien, 1551. Donc avant cette date-là, ben vous aviez l'évangile de Jean. Boum, un gros bloc. Et vous n'aviez pas chapitre 8, chapitre 9, tout ça. Je ne sais pas si j'ai mis une photo, un extrait d'un codex, vous verriez, il n'y a même pas de ponctuation. Et c'était des grands anciens, donc en fait, c'est comme si vous aviez un bloc écrit en caractère majuscule. Vous savez, au commencement, Dieu, A-U-C-O-M, il n'y a pas d'espace, vous collez tout. Donc quand vous lisez, on me dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, enfin, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole, vous avez pas du tout de ponctuation. Ça, c'était en grec, boum, c'est comme ça. Et donc, il a fallu, d'une manière arbitraire, mettre des points, mettre des virgules. Et quand vous faites une traduction, vous dites, est-ce que je mets la virgule là? Ouais, mais si je mets la virgule là, est-ce que les gens vont comprendre ça? Je vous donnerai des exemples pour montrer. Donc, même la ponctuation, des fois, peut jouer des tours dans la traduction. Des fois, c'est subtil, hein, là où vous mettez le point. Mais on l'a fait. Mais pour dire que la division en versets, c'est quand même assez tardif. Hein, ça fait à peine 500 ans, quoi. Donc, la Bible en version latine fut le premier livre imprimé par Gutenberg, on l'a dit. La deuxième épître de Jean, qui se trouve juste un petit peu avant l'Apocalypse, c'est le plus petit livre de la Bible. Alors, ça vaut aussi la peine de dire qu'est-ce que c'est que la Bible. Parce qu'on dit la Bible, la Bible, la Bible. C'est le document que je vous ai donné, je crois, Introduction à la Bible. Vous l'avez? Je vais voir si je l'ai aussi. Tu l'as? Je l'ai mis. Vous voyez, la Bible, d'où vient son nom? Vous l'avez sur vos feuilles? La Bible, d'où vient son nom? Donc, comment se présente-t-elle? Que contient-elle exactement? La Bible, c'est une vraie bibliothèque. D'où son nom? Biblio. Et du suffixe tech, pris du grec teke. Teke, c'est une caisse, c'est une boîte, c'est un étui. Qui est destiné à être rangé. Donc la Bible, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une compilation de plusieurs livres. Parce que quand on dit la Bible, est-ce que tu as la Bible? Oui. Mais c'est quoi la Bible, en fait? C'est ni plus ni moins une bibliothèque. C'est-à-dire que dans la Bible, vous avez 66 livres. Et là, on revient à la question du canon, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette bibliothèque? Il y a des livres qu'on ne va pas mettre, d'autres pas. Donc quand on parle de la bibliothèque, on comprend que c'est, quand on prend de la Bible, c'est une compilation de 66 livres. Voilà, c'est pas un livre qui s'appelle la Bible. Maintenant, c'est devenu, on le vulgarise, on dit ce que tu as la Bible, on comprend que c'est ce livre-là. Mais à l'origine, quand on parle de la Bible, c'est un livre qui contient 66 livres, bibliothèque. Donc vous avez la petite définition, juste pour vous le rappeler. Le livre des psaumes constitue le plus grand livre de la Bible avec 150 chapitres, soit 2527 versets. Donc le psaume 119, c'est le plus long. Le psaume 119, c'est un éloge de la Torah. C'est-à-dire que c'est magnifique. Enfin, après le cours que je vous ai donné, vous laisserez un peu reposer tout ça. Et peut-être ce soir ou demain soir, vous lirez le psaume 119. Il est long. Il est long, mais vous l'appréhenderez autrement. Vous verrez que le psalmiste qui a écrit ça, il était véritablement passionné pour la parole. Vous mettez-vous à sa place et quand vous lirez, parce qu'il y a des versets, moi c'est comme ça que j'encourage, le psaume 119, il est long, il faut le lire. Mais chaque verset, en fait, c'est une pensée. Vous voyez, en même temps, c'est écrit, en hébreu, c'est d'une richesse. Mais en français, c'est quand même, on comprend. Et il y a des versets qui vont vous parler plus que d'autres. Et vous les stabilotez. Et peut-être sur les, le psaume 100, j'ai mis où? Psaume 119, 176 versets. Sur les 176 versets, peut-être il y en aura trois qui vont te parler. Stabilote-les. Enregistre-les. Apprends-les par cœur et récite-les. Et puis peut-être dans 3 mois, tu vas relire le psaume 119, il y en a 3 autres qui vont te parler. Et puis tu les apprends. Et vous verrez, mettez-vous à la place de celui qui a écrit le psaume 119. Vous direz, waouh, cet homme, c'est un passionné, c'est un amoureux des Écritures. Il faudrait prendre le temps de le lire et de s'arrêter. C'est une, on va dire, ça peut être une lecture méditative. Je m'arrête là. Mais c'est un petit exercice que je vous encourage à faire. Esther 8, verset 9, vous le saviez que c'était le verset le plus long. Vous regarderez, il est long. Esther 8, 9. Jean 11, 35, c'est le verset le plus court. Le verset le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura. Alors je vous ai mis, Jean 11, 35 ne contient que 2 mots, enfin, dans les traductions. Et pas toutes les traductions. Il y en a qui en mettent « et Jésus pleura ». Donc ça fait 3. C'est le plus court de la Bible. Pourtant, en grec, vous avez 3 mots. Vous voyez ? Et puis, sinon, si on partait en grec, le verset le plus court, c'est 1 Thessaloniciens 5, 16, c'est « réjouissez-vous toujours ». Ça tient en 2 mots. C'est « réjouissez-vous », nous, ça fait « réjouissez ». Vous, toujours, ça fait 3. Mais en grec, le mot réjouissez-vous, c'est le verbe, c'est déjà. Réjouissez-vous toujours ou priez sans relâche. C'est aussi 2 mots. On va dire, en grec, c'est les versets les plus courts du Nouveau Testament. Mais sinon, dans nos traductions, généralement, ce qu'on retient, c'est Jésus pleura. Et dans la Torah, le verset le plus court, c'est l'otirtsa. C'est tu ne connais. Mettra pas de meurtre, ou alors dans les traductions, tu ne tueras pas. Mais tu ne tueras pas, j'aime pas trop cette traduction. Je préfère tu ne commettras point de meurtre. Parce que ce que la Torah condamne, en fait, c'est le meurtre par préméditation. Imaginons, tu es en voiture, un gamin qui passe, pas vu, tu l'as écrasé, tu l'as tué, enfin écrasé, c'est un peu violent, mais tu as tué. Homicide involontaire, tu ne l'as pas vu, tu l'as tué. Est-ce que tu as enfreint le commandement « tu ne tueras pas » Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce que la Torah condamne, c'est le meurtre par préméditation. Caïn, envers son frère Hevel, et c'est ça. C'est pour ça qu'une traduction plus juste, c'est tu ne commettras point de meurtre. Et puis, au niveau des prophéties, 6408 versets sont dits prophétiques et 3268 sont déjà accomplis. Et donc la Bible, c'est l'œuvre de 45 auteurs, tous juifs à l'exception de Luc. Luc, seul auteur non juif. Et ce qui est très intéressant, c'est que Luc, qui a écrit son évangile, l'évangile selon Luc, et le livre des Actes des Apôtres, est certainement celui qui connaissait le mieux la culture juive et qui donne des détails impressionnants que peu d'évangélistes donnent. Ça montre en même temps qu'en tant que non-juif, il avait une connaissance du peuple juif. C'est tout énormément de choses à dire, mais ce n'est pas notre propos. Alors, voilà, c'est écrit en petit, mais c'est généralement un argument infaillible pour prouver la véracité des textes du Nouveau Testament. Là, j'ai fait un tableau qui, généralement, c'est le plus complet qui existe, parce que j'ai pris ça à peu près dans 5-6 ouvrages, j'ai essayé de faire un seul tableau qui récapitule tout. Qu'est-ce qui nous dit dans ce tableau ? Que vous avez les œuvres anciennes, les plus connues, comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Tacite, Pline le Jeune, Suétone, la guerre des Juifs de Flavius Joseph, la guerre des Gaules de Jules César, et voilà, qui sont des livres très connus au niveau historique. Donc vous avez le Nouveau Testament en haut, première ligne, et vous avez, bon, le genre, on le connaît, le Nouveau Testament, le dernier livre qui a été écrit du Nouveau Testament, ce qu'on va dire, la Bible suit quand même un ordre chronologique. On va dire, le dernier livre qui clôt le Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrit, parce que Jean était le plus jeune des 12, fils de Zébédée, et Jean a joui d'une longévité assez peu commune, en tout cas pour l'époque. On pense que Jean, quand Jésus l'appelle avec son frère, Jean devait avoir 15-16 ans. C'est pour ça qu'il est mort vraisemblablement en l'an 100. C'est très difficile, parce qu'on n'a pas de données précises au niveau... Mais quand on prend on arrive à compiler ce que les pères de l'Église, et ce que les quelques sources que l'on a, on sait en tout cas qu'en 95, Jean est exilé à Patmos, sous Domitien. Donc là, il va écrire son Apocalypse, ou il va le faire dicter à un secrétaire qu'il avait. Il va être libéré, il va retourner à Éphèse, là où il avait toute sa juridiction des Églises qu'il avait sous sa direction, et là, avant de mourir, il va écrire cet évangile qui est l'évangile de Jean, qui est un évangile tellement profond, tellement puissant, que c'est un évangile qui a été maturé. Jean, j'ai donné une série de 4 cours sur l'évangile de Jean. On connaît l'évangile de Jean, vous connaissez, vous l'avez lu, vous connaissez en grande substance. Quelqu'un a dit... d'une manière humoriste, que l'évangile de Jean, un enfant peut patauger dedans et un éléphant peut se noyer. L'évangile de Jean, il doit être accessible à quelqu'un qui ne connaît rien à la Bible. Vous avez un collègue de travail, un ami au boulot ou quelqu'un à l'école, vous lui offrez l'évangile de Jean, il va le lire, il n'a aucun bagage théologique, il n'y connaît rien, il n'a jamais entendu parler de Dieu, il va lire l'évangile de Jean. C'est-à-dire, comme un enfant, ça va lui parler. Parce que, en même temps, la parole est vivante. Et des gens qui ont étudié la théologie, qui sont des maîtres en grec, qui ont étudié, ils ont 50 ans de vie chrétienne, et c'est des théologiens, c'est des gens qui... ça vous fait peur. L'évangile de Jean, c'est insondable. On n'arrive jamais à en voir le bout. C'est propre à l'évangile de Jean. Parce que Jean, il ne veut pas raconter ce que les synoptiques disent. Matthieu, Marc, Luc, synoptiques, c'est-à-dire qu'ils disent à peu près la même chose, la même séquence. Mais Jean, quand vous lisez Jean, il y a des choses, il ne parle pas de la transfiguration, il ne parle pas de la naissance de Jésus, tout ça. Parce que Jean, il n'a pas envie de rapporter des choses que déjà les autres ont dit, ce n'est pas ça. Jean veut nous amener à un autre niveau. Jean veut nous élever. C'est pour ça que lui, déjà, il commence bien loin. Il commence non pas à l'incarnation, ce que les autres évangélistes vont faire, en s'attendant sur la naissance de Jésus, Joseph, Marie, etc., l'enfant qui naît dans une crèche, ce qu'on appelle l'incarnation, la venue en chair. Jean va beaucoup plus loin. Jean, il part de l'éternité. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il était au commencement avec lui. Donc Jean nous amène déjà à un autre niveau. Vous voyez ? Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que Jean, c'est tellement profond et ça vous stimulerait à lire l'évangile de Jean. Et le but de cette traduction, c'est de relever certaines choses. Je vous donne un détail, parce que je suis là aussi pour donner des détails. Et je ne veux pas non plus m'enfermer dans le suivi des cours. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des choses en même temps qui... Comme ce que vous allez retenir, c'est dans votre rapport avec la parole. Je le partageais avec quelqu'un tout à l'heure. Au commencement était la parole. Et la parole était prontos theos. Pros, ton, theos. Toute la complexité de la traduction, c'est pros. Proximité, ça vous parle ? La proximité, ça vient de ça, c'est dérivé du grec. Pros, ton, théos. Jésus, le Christ, le Logos, il est proston théos. Alors dans notre traduction, la majorité des traductions, on veut dire, au commencement était la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Vous savez, moi, comme beaucoup, on essaie d'imaginer la scène. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Je ne sais pas, dans votre imaginaire, comment vous imaginez la scène ? La parole est de toute éternité, comme le Père, comme le Saint-Esprit. Ils sont de toute éternité. Et Jean nous dit que le Fils était avec Dieu. Comment tu imagines la scène ?
Très difficile, mais j'imagine un fils pas petit, déjà grand, jeune adulte.
Je parle pas physiquement.
Ok.
Dans la relation. Dans la scène. La parole était avec Dieu.
Ouais. Mais c'est intéressant. Il y a pas de fausse ou de mauvaise réponse. Collé. Moi aussi, j'imagine que de toute éternité, en même temps, c'est très difficile d'imaginer l'éternité, parce que même 13, 14, 75 millions d'années, de milliards d'années sur l'éternité, c'est quoi ? C'est même pas ça. Tu peux pas mesurer l'éternité. L'éternité, il y a rien avant. Donc, de toute éternité, le Père est avec le Fils. Ils sont là. Et moi, je me dis, avec mon fils, je l'ai, voilà, on est là, en fait, de toute éternité. Waouh, c'est chiant. Hein. Surtout si on ne se parle pas. La parole était avec Dieu. Waouh. On imagine. Je dis juste, si on interroge le texte, au commencement était la parole était avec Dieu. C'est qu'est-ce qu'on comprend derrière ? Il était avec Dieu. Parce que moi, je peux être avec ma femme. Enfin, je suis avec ma femme. Mais on ne se parle pas. Elle fait ses trucs. Moi, je fais mes trucs. Mais je suis avec elle. Vous voyez ? Donc, on va s'intéresser dans la traduction à ce pros. Proston theos. Alors, vous prenez la traduction que j'ai faite. J'ai traduit comme ça. Au commencement était la parole. Et la parole était face à face avec Dieu. Vous voyez, quand on dit « et la parole était avec Dieu », on a tendance à faire ça, en fait. En fait, on ne se voit pas. On ne parle pas, mais en même temps, on est côte à côte, on ne se voit pas. Maintenant, si je dis « et la parole était face à face avec Dieu », c'est déjà autre chose. Et en fait, c'est toute la complexité de la traduction de rendre ça. On pourrait, j'hésitais, ça sera développé dans les notes. C'est ce qu'on appelle le principe de la périchorèse. Il y en a qui connaissent ce mot. La périchorèse. Écrivez-le. Je faisais ça à mes élèves quand je donnais des cours sur... généralement, quand... Péri, P-E-R-I, chorèse. C-H-O-R et accent aigu, péricorèse, péricorésis. Mais c'est le meilleur moyen d'apprendre et d'enregistrer. C'est quand vous allez arriver, vous ferez votre petite recherche et vous ferez votre définition. Vous allez regarder sur plusieurs sites pour un petit peu se familiariser avec ce mot et vous faites votre traduction, enfin votre définition. Mais vous allez enrichir votre vocabulaire et vous le placerez un dimanche matin dans la prière. Je loue Dieu pour la péricorèse. Oh, plein la vue. C'est quoi la péricorèse? En fait, c'est l'union dynamique qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, c'est une dynamique. Ça s'appelle une danse. Il y a même un tableau. Si vous cherchez Google Images, vous mettez péricorèse, vous verrez trois personnes qui sont dans une ronde et qui dansent. La péricorèse, c'est une dynamique. Et on pourrait, je dis bien on pourrait, avoir une traduction qui dit ça. Au commencement était la parole. Et la parole était dans une danse avec Dieu. En fait, ce que j'essaye de casser, c'est cette notion de quelque chose de statique. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. On a l'impression que c'est immobile, qu'il n'y a pas de vie, c'est figé. Alors qu'en fait, dans ce pros, ton théos, il y a une dynamique, il y a une vie, il y a une danse, il y a une relation. Et, vous voyez, ça tourne, il y a la vie. Il y a la vie, puisqu'en même temps, il y a le Saint-Esprit, ils sont tous les trois, c'est ça. Au commencement était la parole était avec Dieu. Donc quand vous lirez la prochaine fois dans votre traduction, la parole était avec Dieu, vous aurez un regard tout autre. Ce n'est pas dire que c'est faux, hein, la parole était avec Dieu, mais c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Trinité. La Trinité, c'est une unité, c'est tout un cours la Trinité, c'est une unité plurielle. Ça vous intéresse? Je vais faire très courtement, parce que ça aussi c'est des questions qui reviennent souvent. La Trinité, c'est une unité plurielle. On prend par exemple, en hébreu, vous avez deux mots pour dire un. Yarid. Yarid, unité. J'ai un stylo. C'est pour ça que c'est super que tu en aies plein. J'ai un quoi? Un loup. Mais j'ai un. Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai. Il y en a qui connaissent. Shema Israël Adonai Eleinu Adonai Echad. C'est la confession de foi du peuple juif. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6,4. Nos traductions, le Seigneur notre Dieu est un. Je vous pose la question, ah non, je l'ai dit, mais Yarid, Erad, quelle différence? Je vous ai pris avec les stylos. Donc là, Shema Israël, Adonai Erad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Erad. La différence avec Yarid, c'est quoi? C'est que c'est une unité plurielle. Donc déjà dans ce mot, on sait que Dieu n'est pas une unité monolithique, mais que derrière Dieu, il y a une pluralité. Père, Fils, Saint-Esprit. Et il n'y a pas confusion de personnes. Parce qu'il y a aussi des hérésies qui circulent. Je dis par exemple les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Vous chercherez arianisme. Vous ferez une petite recherche très rapidement, mais ça fait partie des hérésies au niveau de la christologie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, se collera à sa femme. Et les deux Et les deux, une autre traduction, et les deux
formeront une seule chair.
Ils formeront une seule chair. Bassar et Rad. Erad. Bassar et Rad. Bassar et Rad. Bassar, c'est la chair. C'est-à-dire quand l'homme et la femme
s'unissent, ils font un. Ils font un. Erad. Mais l'homme reste homme, la femme reste femme. Simplement qu'il crée une unité. Il crée une unité, Erad. Et chaque fois que dans la Bible, vous trouvez le mot Erad, un dernier exemple, pour bien enfoncer le clou, il est dit que Josué, je crois que c'est Josué ou Gédéon, il part avec 300 hommes. Gédéon, pour voir si vous suiviez. Donc Gédéon, il part, il a 300 hommes avec lui, et il dit, le texte, je crois, hein, il dit, et ils partirent comme un seul homme. Ils partirent comme un seul homme. Il n'est pas dit qu'un seul part. Mais l'ensemble des troupes, unité plurielle, forment comme un seul homme. Erad. Donc vous voyez que chaque fois que vous voyez ce mot hébreu, Erad, c'est toujours une unité plurielle. Et on revient à la question de Tiffany. Que Dieu est une unité plurielle. Voilà. C'est le dogme de la Trinité qui aurait besoin de tout un développement sur l'élaboration de ce dogme. Je m'arrête là. Et donc, pour finir avec ce petit tableau, vous voyez, on ouvre des parenthèses, c'est que le Nouveau Testament, donc je m'étais arrêté à ça, le Nouveau Testament, Jean a écrit l'Apocalypse 95. Et après, il n'y a pas de livre après. En tout cas, c'est comme il y a... Bien sûr qu'il y a eu d'autres livres qui ont été écrits par les pères de l'Église, par d'autres, la Didaché des 12 apôtres, tout ça. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'apôtre de l'agneau, des disciples de Jésus, pour attester que ce qui était écrit, c'était conforme à l'enseignement du Seigneur Jésus. Donc le canon du Nouveau Testament se clore en l'encens avec l'Apocalypse. Et la plus ancienne copie que l'on a retrouvée, c'est-à-dire un morceau de manuscrit, de papyri, qui était fait sur des joncs, des roseaux, on a retrouvé, on a estimé à 125, une portion, je ne sais pas si je l'ai mis, une portion de l'évangile de Jean, donc c'est le quatrième chant, date de la plus ancienne copie, 125 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous avez, entre la rédaction de l'évangile de Jean, l'Apocalypse, qu'on va dire qu'après l'Apocalypse, Jean a terminé son évangile, donc ça serait plutôt son évangile. On a entre la rédaction de l'évangile de Jean et la première copie qui a été retrouvée, un écart de, voilà, j'ai mis 30-40, mais à peu près, c'est rien. Il y a 30-40 ans entre une copie qu'on a retrouvée, c'est-à-dire une preuve originale. Là, on est dans de l'archéologie. C'est un papyrus, le P125, je crois, ou P65. C'est-à-dire qu'il y a une preuve archéologique qui montre que déjà en 125, l'évangile de Jean avait déjà été recopié et il avait circulé. Et des manuscrits du Nouveau Testament, tout confondu. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a juste des fragments de Matthieu, des fois c'est juste ça, des fois c'est carrément tout le Nouveau Testament. On a à peu près 6400 manuscrits. C'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme. Donc, vous voyez qu'entre la rédaction, ce qu'il faut retenir, c'est la fin de l'évangile de Jean en l'an 100 et la première preuve archéologique, 20, 30, 40, pour une fourchette, de preuves. Maintenant, prenons des ouvrages comme l'Iliade d'Homère. Qui va remettre en doute ? Alors, on sait bien que c'est un récit mythologique, mais que c'est un livre que tout le monde connaît, l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère, 900 avant Jésus-Christ. 900, il faut avoir une fresque dans sa tête, 900 avant Jésus-Christ. La copie la plus ancienne date du 11e siècle. Il y a un écart entre la rédaction et le plus ancien manuscrit, 500 ans. On pourrait, je dis bien on pourrait, avec des pourrons, on pourrait faire plein de choses, mais on pourrait penser que entre ces 500 ans, il y a peut-être des gens qu'on a pu peut-être modifier le texte, parce que la plus ancienne copie, preuve, elle a 500 ans. Vous voyez ? Alors qu'avec nos évangiles, on a la garantie. Et on n'en a pas que... Parce que là, l'Odyssée d'Homère, vous voyez, en même temps, il y a beaucoup de tomes. On a un manuscrit complet qui date du XIIIe siècle. Sinon, à peu près, on a 643. On a quand même 6400 exemplaires du manuscrit du Nouveau Testament, des preuves. Vous voyez ? Et donc, si on prend un dernier exemple qu'on connaît tous, la guerre des Juifs de Flavius Joseph. Qui a lu la guerre des Juifs de Flavius Joseph? Qui connaît Flavius Joseph? Historien contemporain de Jésus, même d'après, qui a participé à la chute de Jérusalem par Titus. Il faut être passionné, je vous le conseille, mais c'est bien de l'avoir lu. Et donc, Flavius Joseph, il a écrit pendant, il était donc témoin de la destruction de Jérusalem. On est en 66, guerre, soulèvement des Juifs contre les Romains, et 70, c'est une date clé, 70, c'est la destruction de Jérusalem. Hein, le temple est détruit, et donc Flavius Joseph est témoin de ça, et il assiste, et donc il l'écrit dans son recueil. La plus ancienne copie de Flavius Joseph date de 10e siècle. Il y a 800 ans d'écart entre la rédaction et le premier manuscrit le plus ancien qu'on a retrouvé. Tout ça pour dire, et je m'arrête là, c'est de dire la fiabilité des textes du Nouveau Testament. Donc que vous disposez dans votre Bible. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sûr. Il n'y a pas eu de traficotage, il n'y a pas eu de... Parce que peut-être c'est quelque chose que des fois les musulmans soulèvent. Ouais, mais ça a été trafiqué, ça a été manipulé, trafiqué. Ouais, bah, je veux bien, mais prouve-le-moi. Il faut que tu puisses me le prouver. Montre-moi que le texte a été... Et vous pouvez, entre autres, prendre ce genre d'éléments-là. La fiabilité des textes. C'est pour ça qu'en même temps, il faut être sûr. Cette conviction que toute l'écriture est inspirée, on parle de l'infaillibilité et de l'inhérence. Et ça, ce sont ni plus ni moins, quelques preuves pour justifier ça. Je m'arrête pas là, vous l'avez pris en photo, vous le regarderez. Juste, les 10 plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les 10 plus anciens. Et c'est très intéressant quand vous pouvez avoir accès à ces documents, parce que moi, quand je suis dans le travail de traduction, là, en ce moment, je suis dans Colossiens. Et dans Colossiens, vous avez beaucoup de variantes. Je passe la critique textuelle, tout ça, mais on essaie toujours de voir le plus ancien manuscrit, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on aurait tendance à penser que c'est celui-là qui est le plus sûr. Mais comme on recherche... Alors, aujourd'hui, on a ChatGPT, on a l'IA, et je vous assure que ça nous aide. Non, si ça peut dire des petits, tout dépend de l'emploi qu'on en fait. Mais on a quand même un gain de temps. On a accès à des ressources qu'on n'a pas. J'ai pas mal de livres, mais des fois, quand vous n'avez pas, vous cherchez qu'est-ce que Irénée de Lyon a dit sur Jacques fils de Zébédée, bah, vous avez le livre d'Irénée de Lyon, un gros pavé comme ça, mais faut tout lire pour uniquement avoir peut-être une phrase de ce qu'il dit là-dessus. Là, ChatGPT, ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, et lui va vous sortir le texte. Alors peut-être il va vous dire la page et vous allez vérifier dans votre bouquin si c'est vrai. Vous voyez, là, effectivement, mais en cela, vous pouvez avoir accès à ça et vous interroger. Voilà. Mais donc, pour revenir à ça, les 10 plus anciens manuscrits, c'est le P52, celui que je vous parlais tout à l'heure, P52, qui contient un petit extrait de l'Évangile de Jean, chapitre 18. 31-32, voilà, qui est conservé à la librairie de Manchester, c'est le plus ancien. C'est une pièce de collection impressionnante. Et après, voilà, papyrus P90 du 2e siècle. Et puis vous prenez une photo si vous voulez, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même bon nombre de manuscrits qui sont là pour attester la fiabilité des évangiles. Je vous épargne. Mélanie a ramené les feuilles. Super. Il est quelle heure ?